des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Émilie Julia.
Benjamin Constant, grand personnage du 19e siècle, homme politique, écrivain, philosophe, grand amoureux de la liberté. Monsieur Hoffmann, bienvenue. Vous êtes directeur de l'Institut Benjamin Constant à Lausanne, en Suisse. Pourriez-vous tout d'abord nous décrire le personnage, si on devait retenir un caractère majeur de Benjamin Constant, lequel serait-il ?
Je crois qu'il faut rester dans les traditions, dans l'image traditionnelle qu'on en retire à travers les manuels, c'est le défenseur de la liberté. Je crois que s'il y a un point vraiment qu'il faut retenir, c'est bien celui-ci. Sans doute a-t-il été autre chose, il a été un écrivain assez remarquable. Dans son roman Adolphe, il décrit les tourments d'une âme amoureuse. C'est évident qu'il a été aussi un très grand historien des religions, ce qu'on ignore très souvent. Une partie considérable de son œuvre est consacrée à la religion. Il y a passé 40 ans de sa vie. Mais tout de même, s'il faut dégager un point principal, c'est ce travail dans les brochures, à la tribune de l'Assemblée, dans ses discours, dans ses articles de la presse, pour la défense des libertés constitutionnelles, des libertés fondamentales de l'individu. Voilà, je crois, le point essentiel qu'il faut retenir. Un homme à multiples facettes, sans doute, qui a évolué aussi dans son temps. Il est né en 1767, il meurt peu de temps après la révolution de juillet de 1830. Donc c'est quelqu'un de cette génération qui a vécu quantité de régimes successifs et qui, bien entendu, a évolué dans cette configuration politique et cette naissance de l'État moderne.
Comment peut-il affronter ses idées face aux hommes qu'il doit affronter ?
D'abord, il n'est pas d'origine française. C'est quelqu'un qui est né en Suisse, qui est né à Lausanne, mais de famille d'origine française. C'était des protestants qui avaient fui la France pour des raisons religieuses au XVIe siècle. Et du côté de sa mère, c'était des réfugiés suite à la révocation de l'édit de Nantes. Donc à la fois du côté des Constants et à la fois du côté de la famille de sa mère, qui est une grande famille Chandieu, il était français. Il se sentait français, il a toujours voulu être français, même s'il a eu quelques peines à faire admettre sa nationalité française. Mais je crois que c'est important pour le situer, de montrer que dans son combat qui a eu lieu essentiellement ici en France, il apparaissait souvent comme étranger. Il y avait un phénomène de rejet à son égard.
Est-ce que vous pensez qu'il en a souffert de cela ?
Oui, certainement, parce que à plusieurs reprises, avec Madame de Staël aussi, il a dû défendre bec et ongles cette origine française, cette nationalité française. Ça n'a pas été très facile. Encore en 1824, quand il est déjà depuis quelques années député à la Chambre, il y a toute une manifestation pour lui refuser cette nationalité, parce que comme il était un opposant au régime, un libéral assez craint, assez redouté de la part des ultras, évidemment que si on avait pu se débarrasser de lui en prétendant qu'il ne pouvait pas siéger à la Chambre étant étranger, ça aurait été très commode. Alors il a dû défendre une fois de plus, mais cela faisait au moins la troisième fois qu'il défendait son statut de Français. Donc ça, c'est une position quand même importante, si bien que on pourrait, à la limite, assez volontiers parler d'esprit européen avant la lettre. Et ça, c'est tout à fait typique du groupe d'intellectuels auquel il appartient. Ce groupe de copains autour de Madame de Staël, avec des personnalités comme l'historien Sismondi, mais aussi le philosophe et littérateur allemand Schlegel, qui était le précepteur des enfants de Madame de Staël. Donc il y a autour de Madame de Staël 5, 10, 15 personnes, parfois même davantage, qui sont des familiers de son salon, qui sont ses amis, qui sont ses correspondants, que l'on désigne sous le nom groupe de Coppet. Et ces personnes sont presque toutes, pas toutes, mais presque toutes, bannies par le régime impérial de Napoléon et trouvent refuge ailleurs qu'en France, d'où aussi ce caractère européen. Donc ce point de vue européen, non exclusivement français, mais revendiquant en même temps, tant chez Madame de Staël que chez Constance, cette nationalité française. Madame de Staël a toujours souffert de ne plus avoir son salon à Paris. Sa seule ambition, c'était de revenir à Paris. Elle a été mortifiée d'être exilée par Napoléon. Donc, vous voyez, c'est cette ambiguïté de personnes qui se sentent essentiellement françaises et même parisiennes et qui, en même temps, vivent ce statut d'exil ou de semi-exil. Benjamin Constant n'a jamais été, à proprement parler, exilé. Il n'a jamais été obligé de quitter le territoire français, du moins pas sous l'Empire, mais néanmoins, il ne pouvait pas publier, il ne pouvait rien faire, donc il n'a pas toujours vécu en France. Il a vécu tantôt en France, tantôt en Suisse pendant cette période. Et puis, à partir de 1811, il a vécu en Allemagne. Il parlait parfaitement l'allemand, il parlait parfaitement l'anglais, donc aussi ce multilinguisme est tout à fait caractéristique d'une personne qui se sentait aussi européenne avant la lettre, si l'on peut dire.
Vous avez évoqué Napoléon. Comment se positionnait-il par rapport à Napoléon ?
Au départ, quand Napoléon Bonaparte a l'ambition de prendre le pouvoir en 1799, après son retour d'Égypte, je pense que Benjamin Constant, comme Madame de Staël du reste, devait être favorable, parce qu'il voyait en lui, comme d'ailleurs la plupart de leurs contemporains, un jeune général prestigieux, glorieux, républicain, qui était à leurs yeux tout à fait capable d'assurer la pérennité des institutions à la République française. La République française a souffert terriblement depuis 1792 jusqu'à la fin du Directoire en 1799, d'institutions beaucoup trop changeantes, fluctuantes, de coups d'État, si bien que Bonaparte avait ce mérite à leurs yeux d'assurer des institutions pérennes, des institutions durables. Donc, j'imagine volontiers qu'ils étaient assez favorables. On a soupçonné même Benjamin Constant d'être parmi les Brumériens. En fait, même s'il était déjà un publiciste reconnu, il était trop peu important pour véritablement apparaître comme une des pièces essentielles dans les mains de Bonaparte pour assurer le succès du coup d'État. Donc il n'a pas fait partie du coup d'État. Mais ce qui est remarquable chez lui, c'est que le lendemain du coup d'État, le 19 Brumaire, en 8, il écrit à Sieyès, le fameux abbé Sieyès de « Qu'est-ce que le tiers-État » de 1789, un des hommes qui passait à cette époque pour mieux connaître les institutions, un faiseur de constitutions aussi, eh bien il écrit à Sieyès pour lui dire « Méfiez-vous de Bonaparte, cet homme ne pense qu'à lui ». Donc, le coup d'État est à peine fait, et encore je répète, il était probablement favorable à ce coup d'État. Mais ce coup d'État à peine terminé, il a déjà ce sentiment qu'on s'achemine vers un pouvoir personnel, que Bonaparte va tirer en quelque sorte toutes les ficelles et s'attribuer toutes les prérogatives. Si bien que, dès cette époque, il se pose comme un opposant. Il le deviendra en tant que membre du tribunal, l'une des chambres du régime consulaire, et il se manifestera tellement comme opposant que Bonaparte va faire en sorte qu'il soit exclu de cette assemblée déjà en 1802. Donc il n'aura pas un long mandat au tribunat à cette époque-là. Et à partir de 1802, il n'occupe plus aucune fonction, il est en dehors de tout le système politique, il est l'opposant type, celui qui va s'opposer au consulat à vie, celui qui se tait en 1804 au moment où Napoléon devient l'empereur. Il ne se réveille, entre guillemets, il ne se réveille qu'en 1813, au moment où véritablement Napoléon est en difficulté après la bataille de Leipzig. Et là, alors, il publie ce livre magnifique qui est De l'esprit de conquête et de l'usurpation, qui est écrit à la fin 1813 et qui est publié fin 1813-1814. Et l'on admet volontiers que ce petit ouvrage a énormément contribué dans l'opinion publique européenne pour contribuer à la chute de Napoléon. Donc il est véritablement l'opposant type avec Madame de Staël. Madame de Staël apparaît comme la diva de l'opposition à Napoléon, mais elle est femme. Et en tant que femme, elle n'a pas la possibilité d'être députée, d'être ministre. Elle ne peut pas jouer un rôle politique effectif, tandis que Constant aurait pu. Il ne l'a pas fait, mais il aurait pu. Entre les deux, il représente le couple de l'opposition à Bonaparte et Napoléon.
Alors, vous avez évoqué à plusieurs reprises Germaine de Staël. Mm-hmm. Pourriez-vous nous dire un mot sur les échanges intellectuels entre Benjamin Constant et Germaine de Staël? Qu'est-ce qui les unissait? Étaient-ils très liés?
Oui, c'est un couple d'intellectuels formidable. On a peut-être l'équivalent, avec évidemment beaucoup de nuances et de différences, entre Sartre et Simone de Beauvoir. C'est un couple intellectuel qui s'est lié à partir de 1794. Ils se sont rencontrés à Lausanne en 1794 et ils deviennent intimes. Donc ils forment un couple véritablement, et ceci jusque sous le consulat. Une prise de distance assez nette. En 1802, Madame de Staël devient veuve. Et Benjamin Constant lui propose le mariage, ce qu'elle refuse. Et à partir de là, ils prennent une certaine distance. Ils vont véritablement rompre en 1808. Benjamin Constant va secrètement se marier à quelqu'un d'autre. Et ensuite, il part pour l'Allemagne, si bien qu'ils ne se reverront seulement sous la Restauration. Mais peu importe finalement leur vie de couple, leur vie sentimentale sur laquelle on a énormément glosé. Ce qui importe, je crois, c'est l'échange intellectuel. Effectivement, l'un sans l'autre, c'est pas la même chose. Benjamin Constant sans Madame de Staël, Madame de Staël sans Benjamin Constant, c'est pas tout à fait la même force intellectuelle. Ils avaient besoin l'un de l'autre. Et d'ailleurs, quand ils se sont quittés, on sait par la correspondance de Benjamin Constant qu'il regrettait. Il regrettait cette vivacité d'esprit de Madame de Staël. Et les contemporains étaient unanimes pour dire que la conversation, quand ils étaient en présence l'un de l'autre, la conversation atteignait des sommets extraordinaires.
Benjamin Constant, qui laisse une marque si particulière de son temps, quelle serait-elle selon vous ?
Dans quelle mesure il serait un peu le miroir de son époque? Dans quelle mesure est-ce que, à travers ses écrits ou sa carrière, il reflèterait un peu son époque? C'est difficile de dire. Je pense que il reflète assez bien cette époque de transition. Passage du XVIIIe siècle au XIXe siècle, du classicisme au romantisme. Passage, effectivement, d'une époque où la France est quand même dominante, c'est l'Europe française des Lumières, qui est encore prolongée par l'Empire napoléonien, où le drapeau tricolore flotte à peu près sur toute l'Europe, à une France qui tient un rang de grande puissance, certes, mais qui n'est plus une puissance hégémonique. Donc cette transition aussi, il l'a très bien vécue, il la sent très bien. Et je pense que oui, sa carrière, ses écrits reflètent cette époque de transition. Il est à cheval sur deux époques, à cheval sur plusieurs pays, plusieurs langues, je l'ai dit. Il est donc à la fois d'origine suisse, français de cœur et d'adoption, mais ayant vécu en Angleterre, ayant longuement vécu en Allemagne, parlant ces langues-là. Donc c'est quelqu'un effectivement qui est assez représentatif, quelque part, de cette époque-là.
Et d'un tournant dans l'histoire.
D'un tournant dans l'histoire.
Monsieur Hoffmann, je vous propose de nous retrouver dans quelques instants. On va faire une petite pause. Merci.
Vous écoutez Canal Académie. Marguerite Yourcenar fut la première femme écrivain élue à l'Académie française. Canal Académie consacre 4 grandes émissions aux différents aspects de son talent, son œuvre romanesque, son érudition et son travail de traductrice. Marguerite Yourcenar, une citoyenne du monde, 4 émissions sur Canal Académie.
Monsieur Hoffmann, pour revenir aux œuvres de Benjamin Constant, parlons-en un petit peu. Benjamin Constant a beaucoup écrit, peut-être pas autant que certains auteurs, mais on compte parmi ses écrits donc des romans, des essais. Lequel serait-il le plus important selon vous? Lequel faudrait-il garder à l'esprit?
Alors s'il est connu, bien entendu, par le public cultivé et même le grand public à cause d'Adolphe, et qui reste une œuvre incontournable à beaucoup d'égards, je préférerais peut-être quelques-uns de ses écrits politiques, peut-être par préférence personnelle. Mais tout à l'heure, j'ai cité De l'esprit de conquête et de l'usurpation, reste un très très grand classique. Ces principes de politique qui sont un traité, peut-être un tout petit peu plus abstrait, ont des pages aussi magnifiques. Et ce que j'aimerais aussi signaler, c'est peut-être le premier livre de la religion, qui est quelque chose d'absolument magnifique, qui est relativement facile d'accès. Le reste de cet ouvrage sur les religions est également plus érudit, d'un accès plus difficile, mais le premier livre est quelque chose d'incontournable, à mon avis en tout cas.
Alors, où peut-on se procurer ces œuvres? Comment peut-on y accéder?
Beaucoup ont été publiés en poche. En tout cas, toute l'œuvre romanesque se trouve dans beaucoup d'éditions qu'il serait impossible à énumérer ici. Il faut peut-être rappeler à cet égard que, à part Adolphe, qui a été publié en 1816, donc du vivant de Benjamin Constant et de sa volonté, le reste des œuvres romanesques, il faut penser à Cécile, qui est un roman semi-autobiographique, il faut penser au Cahier rouge, ou qu'on doit plutôt appeler Ma vie, qui est un récit autobiographique inachevé, Amélie et Germaine, qui est un adorable petit journal de son hésitation entre deux femmes, Germaine étant évidemment Madame de Staël. Tous ces autres titres que je viens de citer à part Adolphe n'ont été connus que beaucoup plus tard et n'ont été publiés qu'après sa mort, même exclusivement au XXe siècle. Donc une partie de son œuvre romanesque est connue sans son autorisation. C'était des écrits qu'il lui estimait être des écrits intimes, comme son journal intime, qui est aussi un monument extraordinaire, qui est un des grands modèles, à côté d'autres journaux intimes de la littérature française, un grand modèle de ce genre-là. Donc voilà pour les œuvres littéraires qui se trouvent encore une fois facilement accessibles, pratiquement dans des formats de poche. Et en ce qui concerne de la religion, j'ai eu le privilège de publier avec Tsvetan Todorov dernièrement l'intégralité des 5 volumes de la religion chez Actes Sud. Donc ça fait un seul volume relativement facile à manier et on peut avoir grâce à cela l'intégralité de cette œuvre sur la religion, dont je recommande surtout le premier livre. Voilà un peu pour ces œuvres. Quant aux œuvres politiques, une partie, malheureusement, n'est accessible que dans les formats originaux pour l'instant. D'autres, ces traités les plus importants, comme les principes de politique, ont été republiés même en poche. Donc ils sont également facilement accessibles. Mais les discours à la Chambre, tous ces articles dans la presse de l'époque, pour l'instant, doivent être consultés soit en original, soit alors dans des publications un peu plus érudites. Mais il y a les œuvres complètes qui sont en cours.
Alors revenons à l'idée de la liberté. Benjamin Constant a beaucoup comparé la liberté des anciens à celle des modernes. Est-ce qu'il attachait beaucoup d'importance à faire avancer son temps vers les nouvelles idées ?
Oui, c'est sa fameuse théorie, il n'est pas le seul à la partager, de la perfectibilité de l'espèce humaine. Donc pour lui, l'espèce humaine traverse toute une série d'étapes vers plus de liberté, vers plus d'égalité. Il a beaucoup insisté sur ce problème, c'est que la marche de l'espèce humaine va vers plus d'égalité. Donc, effectivement, il est important d'avancer avec son temps. Il est un perfectibiliste, donc quelqu'un qui estime que les idées, tout doit se développer selon un ordre évolutif et qu'il est même dangereux pour les sociétés de stagner, qu'il est dangereux de rester en arrière et pire encore de rétrograder. Donc, il faut suivre le mouvement. Il y a cette image un peu comme une rivière ou comme un fleuve et il serait stupide de vouloir arrêter ce cours des choses. Cela dit, il faut peut-être un peu nuancer. Il y a effectivement cet aspect de modernité dans sa pensée, mais en même temps, il ne néglige pas le traditionnel. Il ne néglige pas le poids de l'histoire, bien au contraire, le poids de ce que le passé peut encore apporter. L'exemple du passé est extrêmement important. Et puis venons-en justement à cette fameuse distinction de la liberté des anciens et celle des modernes. On fait allusion là, notamment, à un célèbre discours, plutôt à une série de cours qu'il avait donné en 1819. Mais c'est une idée qu'il avait déjà développée auparavant. Donc, pour lui, il faut absolument distinguer la liberté telle que la développaient les Grecs, notamment à l'âge classique, dans la cité grecque, et la liberté qui est celle qu'a apporté 89 au monde moderne. Pour lui, la liberté des anciens était exclusivement une liberté de participation à la vie politique. Mais le citoyen n'en profitait pas lui-même. Il n'y a pas de véritable liberté individuelle dans l'Antiquité. La liberté consiste à pouvoir participer sur la place publique, prendre la parole sur la place publique. C'est donc une liberté active, une liberté politique essentiellement. Tandis que la liberté des modernes, c'est ce qu'il appelle, le terme peut faire peut-être un peu sourire, la jouissance. C'est-à-dire que on peut maintenant avoir la liberté de faire ce qu'on a envie de faire. Personne n'est en droit de nous limiter, sauf bien entendu si nos activités allaient à l'encontre des bonnes mœurs, allaient à l'encontre du droit, de la loi. Mais au-delà, non, on est libre de faire ce qu'on veut. on peut véritablement user de ces libertés. Donc à une liberté politique antique, il oppose une liberté jouissance des modernes, une liberté civile des modernes. Alors, il y a eu une mauvaise interprétation pendant très longtemps, qui n'a été dissipée que récemment. L'interprétation voulait que Constant soit favorable uniquement à cette liberté des modernes. On a retenu de son discours que cet aspect, il fallait maintenant développer cette liberté que les institutions contemporaines nous apportaient. Or, à bien le lire, on s'aperçoit que pour lui, l'idéal, c'est un mixte des deux. Certes, maintenant, nous sommes dans l'ère moderne qui nous a apporté cette liberté jouissance. Mais il avertit ses lecteurs qu'il serait dangereux, très dangereux pour l'esprit civique et pour la politique, de ne vivre que pour les libertés jouissances que nous apportent les institutions modernes. Parce que c'est aller vers l'égoïsme, c'est aller vers l'abstentionnisme politique. Les gens ne font plus que s'abstenir, tandis que la liberté des anciens, la liberté politique des anciens, est la garantie que les libertés civiles d'aujourd'hui pourraient toujours exister. Donc il faut maintenir cette liberté politique, c'est-à-dire cette liberté de participation active. Reste donc chez lui cet esprit un peu militant. Il n'est pas du tout, bien qu'il n'aime pas les révolutions, bien qu'il déteste la violence, quelque part, il aime aussi que l'on manifeste. C'est un ancien opposant, donc il aime aussi qu'il y ait cette force d'opposition capable de dire non à un pouvoir qui deviendrait à un moment donné oppresseur, qui se reposerait sur ce qu'il appelle le sommeil des citoyens. Il ne faut pas que les libertés nous donnent une certaine somnolence et que nous fermions les yeux sur ce qui peut se passer. Il faut au contraire qu'on garde les yeux ouverts et qu'on regarde l'exemple des anciens, l'exemple des Grecs, pour nous inciter toujours à parler politique et à agir politiquement.
À tel point qu'il n'hésite pas même à s'ériger pour la séparation de l'Église et de l'État, par exemple, ou encore pour le parlementarisme. Que diriez-vous à propos de cela ?
Alors, la séparation Église et État, effectivement.
Parce qu'à l'époque, c'était quand même des idées très nouvelles.
Tout à fait, tout à fait. Et simplement, cet homme qui a donc, comme je l'ai dit, consacré un temps considérable à l'étude des religions, l'a fait dans un esprit laïque, dont je dirais qu'il a essayé de faire une sociologie ou une anthropologie des religions. Il a étudié le phénomène religieux. Comment se fait-il que de tout temps, l'homme ait été religieux ? Comment est-ce que la religion, qui est essentielle à l'homme, comment expliquer ce phénomène ? Voilà son point de vue. Il ne l'a jamais fait. Jamais aucune de ses études sur la religion n'est apologétique, c'est-à-dire pour la défense d'une église ou d'une autre. Il appartenait à l'église protestante, parfois il s'en est prévalu, mais ça n'est pas un homme religieux, ou très peu. Ce n'est pas un croyant, véritablement. Si bien que, il est assez naturel qu'il demande à ce que nos institutions respectent la religion. La religion doit être laissée libre, il ne peut pas y avoir d'interdit concernant les religions, mais parallèlement, il ne faut pas que le domaine politique soit d'une manière ou d'une autre subordonné à quelque église que ce soit. Donc on est bien dans ce que vous appelez séparation de l'église et de l'État, même si ça fait un siècle avant la fameuse loi qui sera celle de la France au XXe siècle, au début du XXe siècle.
Benjamin Constant s'est beaucoup engagé dans certaines affaires également, notamment l'affaire Wilfrid Regnault. Est-ce que vous pourriez nous en parler, nous en dire quelques mots ? Donc Wilfrid Regnault qui est accusé d'avoir assassiné une veuve dans un village de Normandie, et Benjamin Constant qui est persuadé du contraire.
Oui, Ça se passe en 1817, cette affaire, cet assassinat proprement dit. Et ça n'est qu'au tout début 1818 que Benjamin Constant s'en mêle. Probablement, on est venu le chercher. À ce moment-là, en 18, les avocats qui ont défendu ce pauvre malheureux Wilfried Regnault, qui risquait sa tête, il était condamné à mort, étaient déjà absolument convaincus de son innocence. Mais le dernier recours possible, parce que Wilfried Regnault avait tout essayé sur le plan juridique, appel, cassation, etc., et chaque fois tous ces tribunaux l'avaient rejeté. Donc il était passible de l'exécution de sa peine. Et le dernier recours, c'est la grâce du roi. Et j'ai l'impression qu'on a fait appel à Benjamin Constant, une fois de plus, parce que ce n'est pas la première fois que ça se produit, pour avoir un écrivain talentueux, écouté, dont on était sûr d'avance qu'il serait très lu. Et il a accepté, et en un temps record, j'ai pu m'apercevoir qu'il n'avait mis que quelques jours, peut-être à peine une semaine, pour lire cet énorme dossier. Il s'est penché dans tous les détails, il a repris toute la procédure, toute l'enquête, il s'est attaché à toute cette vie provinciale, cette vie des campagnes. Il faut essayer d'imaginer ce que c'est que Amfreville, la campagne en Normandie au début du XIXe siècle. Il faut peut-être lire Maupassant, certains contes de Maupassant, qui eux se situent à la fin du même siècle, pour essayer d'imaginer ce que c'était que cette vie provinciale. Eh bien, Constant se plonge là-dedans, s'immerge dans cette vie de petites gens, lui qu'on a souvent accusé d'être élitiste. Eh bien, il prend la peine de savoir, de s'inquiéter qui était la veuve Jouvin, la victime, qui étaient ces personnages probablement illettrés, probablement très peu cultivés forcément, de ces campagnes normandes. Donc on a là quelqu'un, et ça c'est une des très belles facettes, c'est pas seulement quelqu'un qui, derrière son bureau, se met à dire « je vais défendre un accusé condamné à mort », parce qu'on a beaucoup comparé Constant à Voltaire de l'affaire Calas. Oui, si l'on veut. Mais il serait complètement faux d'imaginer qu'il a voulu être Voltaire pour se faire bien voir, pour gagner des voix aux prochaines élections, dans un but complètement politique. Visiblement, c'est quelqu'un qui était profondément ému par cette affaire et qui a réussi, mieux que ne pouvaient le faire les avocats de la victime, enfin de l'accusé, mais qui était en même temps la victime de cette affaire, mieux que pouvaient faire les avocats, lui avait l'audience. Il avait une audience nationale. Et ces quelques brochures qui s'intitulent « Lettres à Odilon Barreau sur le procès Wilfried Regnault » ont eu un succès phénoménal. Ils ont été très très lus d'un bout à l'autre de la France, si bien que le roi a été quasiment obligé, non pas de gracier, mais de commuer la peine à 20 ans d'emprisonnement. 20 ans pour un crime non commis, c'est beaucoup.
Pourquoi pas la grâce alors ?
L'affaire était devenue politique. L'affaire était devenue politique. C'est assez complexe. Visiblement, on a condamné ce pauvre diable parce que planait sur son existence passée la présomption qu'il avait été un des massacreurs pendant les massacres de septembre en 1792. Ce qu'il n'avait pas été, mais il aurait eu cette réputation. Et il faut essayer d'imaginer qu'on est en 1817 et qu'en 1817, le poids de la réaction des ultra-royalistes est très fort, notamment parmi la magistrature. Un bon nombre des magistrats qui ont travaillé sur ce procès, qui étaient dans les cours devant lesquels les procès Regnault se sont passés, appartenaient à cette catégorie d'ultra-royalistes. Pas tous, mais une bonne partie. Donc, il y a la volonté de se débarrasser d'un soi-disant jacobin, si vous voulez. Donc, on voit très bien un clivage politique entre ultra-royalistes d'un côté et ce qui resterait de souvenirs révolutionnaires, S'il a été condamné, c'est pas pour avoir ou non assassiné cette pauvre dame, mais parce qu'il aurait été un septembriseur, ce qu'il n'avait jamais été.
Alors, humaniste, courageux, qui s'est beaucoup battu pour ses idées, pour faire avancer les idées. Et pourtant, malgré deux tentatives, il s'est porté candidat deux fois à l'Académie, il n'a jamais été reçu ni élu. Alors, en a-t-il été affecté ?
Énormément. Donc, une première candidature en 1817, on revient à 1817, qui est vraiment une année...
Date clé, hein ?
Une date importante, effectivement. C'est aussi la date de la mort de Madame de Staël, donc, qui l'a énormément affecté aussi. Là-dessus, différents problèmes, dont l'échec à l'Académie, et un second échec en 1830, qui, là aussi, je crois que j'ai le souvenir... que sur son lit de mort, je crois qu'il a encore dit une phrase évoquant son regret de ne pas avoir été élu. Mais je ne suis plus sûr de moi, mais je crois que ça allait jusque-là. Et on sait par ailleurs que c'était quelque chose qui lui aurait fait non seulement plaisir, mais il s'attendait à cette reconnaissance. Et quand on voit, disons, qui on a élu à sa place, je ne me souviens même plus des noms, mais on les connaît fort bien, hein, j'entends dans l'histoire de l'Académie, et on s'étonne effectivement, la comparaison, évidemment ces élus-là ne font pas le poids, si je peux ainsi m'exprimer, malgré tout le respect que je leur dois, pas avec lui, il l'aurait mérité certainement.
Monsieur Hoffmann, je vous remercie pour ce portrait très instructif de Benjamin Constant et j'invite nos internautes à se rendre à Lausanne, à l'Institut, pour parfaire leur connaissance de cet homme extraordinaire. Voilà, bien sûr, vous pouvez télécharger cette émission sur canalacadémie.com. Nous vous remercions et je vous dis à très bientôt.
Merci.